Bienvenue dans l'univers de Vocal, le podcast où on brise tous les clichés et en parle librement de ce qui nous touche au quotidien. La maternité, le mariage, l'intimité, la foi en Christ et bien plus encore. Ici, il n'y a pas de filtre, pas de tabou, on aborde tout de manière complètement décomplexée. Chaque épisode est une invitation à discuter de sujets profonds, parfois délicats, mais toujours avec une touche d'humour et de bienveillance. Le sujet de cette semaine se porte sur le favoritisme dans une fratrie. Est-ce qu'un parent peut aimer un enfant plus que les autres? Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser les affinités avec un enfant en particulier? Pour une maman par exemple, la grossesse, l'accouchement et le postpartum, le support qu'elle a reçu pendant sa grossesse ou le non-support pendant ces périodes-là, vont affecter sa capacité à créer du lien avec l'enfant. Dans cet épisode, je vais moi-même me livrer un peu sur mes deux grossesses et comment chaque expérience a modulé le rapport que j'ai avec chacune de mes filles. Alors, la question que j'ai reçue cette semaine, je la trouve un peu cocasse, mais je pense qu'elle nous envoie directement dans le vif du sujet. La question est la suivante. Maintenant que tu es maman de deux, est-ce que tu aimes tes filles de la même façon ou est-ce que tu comprends les parents qui ont des préférences pour l'un ou pour l'autre? Avant de donner ma réponse et d'expliquer mon expérience personnelle, j'ai envie qu'on aille dans la parole de Dieu. Plus précisément dans Genèse 25, je vais lire de la version Louis II, à partir du verset 21. Alors, ici, on est en train de parler de l'histoire de Isaac, de Rebecca et de leurs deux enfants, Ésaü et Jacob. Donc au verset 21, on dit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. » Donc, un peu comme dans l'histoire d'Abraham et de Sarah, c'est un couple qui a des difficultés à concevoir. Et une fois que sa femme devint enceinte, je ne vais pas lire les autres versets, je vais recommencer à partir du verset 27, mais je vais un peu expliquer le contexte. Donc, tu as un couple qui a de la difficulté à concevoir, la femme finit par tomber enceinte, et elle tombe enceinte de jumeaux. Et la Désolée. La grossesse va être tellement difficile parce que à un moment donné, on va dire que les enfants se heurtaient dans ses entrailles, donc dans son sein. Et Rebecca va aller voir le Seigneur pour lui demander « Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma grossesse est aussi difficile ?» Et le Seigneur va lui expliquer que dans ses entrailles, il y a deux enfants, il y a deux nations, deux grandes nations. Qui vont sortir d'elle. Et ces deux peuples vont se séparer dès la sortie de ses entrailles. Donc on voit déjà que ce n'est pas des enfants qui vont particulièrement avoir une relation de proximité. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et l'autre, le plus grand sera assujetti par le plus petit. Donc le plus petit va dominer sur son grand frère. Et quand les enfants naissent, les enfants ont des différences physiques. Donc, c'est des jumeaux, mais ils sont physiquement différents. Le premier sort roux. Donc, le premier s'appelle Ésaü. Et le deuxième s'appelle Jacob. Et Jacob a une particularité. C'est que quand Jacob, il sort, il tient le talon de son frère. Et voilà, je mentionne ce petit détail-là pour vous inciter à aller lire le reste de l'histoire parce que ce détail-là est important. Ce qui nous intéresse au fin du podcast aujourd'hui, c'est à partir du verset 27. Donc, on nous dit « ses enfants grandirent », donc en faisant référence à Ésaü et Jacob. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, donc Isaac c'est le père, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Donc, voilà. Donc ici, on dresse le tableau qu'il y a déjà une préférence qui se dresse dans la fratrie. La mère aime celui qui est un peu plus calme, qui qui est très souvent à la maison, qui est très souvent à côté d'elle, et Isaac, pas Isaac, oui, en fait, c'est ça, Isaac, le père, donc, va aimer Ésaü parce qu'il a des attributs qui sont typiquement masculins, dans tout ce qui est masculinité traditionnelle. Donc, ça va être un jeune homme qui va aller à la chasse, qui va aimer le gibier, qui va être d'autant plus dehors. Donc, pour répondre à la question, en ce qui me concerne, avant d'expliquer mon expérience, j'ai envie de dire que chaque enfant est différent. C'est-à-dire, même là, on parle de jumeaux, donc deux personnes qui ont partagé, j'ai envie de dire, le même utérus au même moment, qui naissent drastiquement différents et qui ont chacun leur caractère. Et il se peut, parce que les enfants, en fait, c'est des êtres humains, ok? Tout comme dehors, tu peux avoir des affinités avec une personne plutôt qu'avec une autre, il va être de même, souvent, avec tes enfants. Et il y a des choses que tu vas voir chez un enfant qui te correspondent plus, qui s'allient plus avec ta personnalité et ton tempérament, plutôt qu'un autre. Maintenant, ça, c'est une question de, j'ai pas envie de dire de préférence, mais c'est une question d'affinité. Est-ce que ça veut dire que on aime un enfant plutôt qu'un autre? Je ne pense pas. Je pense que en tant que parents, on aime nos enfants, mais il arrive des instances où on va tout simplement les aimer différemment. Le plus important, c'est de s'assurer que les enfants ne sentent pas qu'on fait du favoritisme, en fait. Et c'est ce qui va se passer plus tard dans l'histoire avec Ésaü et Jacob, c'est que Rebecca va très explicitement favoriser l'enfant qu'elle aime. Je crois, de toute façon, c'était écrit, ça devait se passer. Mais il y a une série d'actions qu'elle va faire qui vont favoriser Jacob au détriment d'Ésaü, et ça va venir créer des conflits à l'intérieur de la famille. Ça sera plus vivable. Jacob sera obligé de partir parce que son frère en aura gros sur le cœur à son égard. Donc, ce qui est important pour un parent, c'est de s'assurer que pour maintenir l'harmonie au sein de sa famille, il faut vraiment s'assurer que même si tu as des affinités plus grandes avec un enfant, il faut t'évertuer de rentrer dans le monde de l'autre pour essayer de le comprendre, pour essayer de créer une relation avec l'autre, avec lequel tu as peut-être un peu moins d'affinités, de telle sorte que l'un ne se sente pas lésé. Donc ça c'est le conseil que j'ai envie de donner à tous les parents. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de facile au quotidien? Non. Et il y a des facteurs qui vont venir favoriser le fait que tu peux avoir une relation une plus grande proximité avec un enfant plutôt qu'avec un autre. L'une de ces choses-là, c'est la période à laquelle un enfant va arriver plutôt qu'une autre. Les premiers enfants, généralement, qui arrivent dans une famille, si le couple vient nouvellement de se marier, comme ça a été le cas pour mon mari et moi, c'est que, en fait, dans le mariage, quand on vient de se marier, même si vous avez été ensemble pendant longtemps, quand tu rentres dans un mariage, le mariage est une nouvelle alliance. Donc, il y a énormément de choses qui vont ressortir. C'est comme si vous apprenez à nouveau à vous connaître dans le cadre de quelque chose qui est permanent, qui est une union qui est censée être permanente. Et c'est pas toujours simple. La plupart des couples à qui vous allez poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre quand vous sortiez ensemble, c'est-à-dire que quand vous étiez en cheminement, comme on le dit communément dans le monde chrétien, ou en fréquentation, ou bien bon, dans le monde séculier, on dit une histoire de goéga, vous sortiez ensemble et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change quand vous vous mariez? Et la réponse va être très souvent oui, parce qu'il y a l'aspect de, un, c'est permanent, deux, il y a quelque chose de profondément spirituel avec le mariage qui. C'est quelque chose de nouveau, en fait, qui se crée. Donc, vous apprenez à vous connaître. Il y a des périodes de tâtonnement, il y a des périodes d'ajustement qui ne sont pas forcément toujours très simples à naviguer. Donc, quand tu rajoutes à cela un enfant vous fait passer du stade où est-ce que vous n'aviez pas besoin de vous occuper de plus que votre personne et de votre conjoint. Là, il y a une nouvelle vie qui vient entrer au milieu et très souvent, les nouveaux couples, hein, de toute façon, aujourd'hui, les gens se marient de plus en plus tard. Donc, les finances sont déjà présentes, le cadre est déjà présent. Donc, on peut dire que ça va, mais même à ça, il y a beaucoup d'ajustements, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et quand vous vous mariez comme nous au début, oui, certes, mon mari et moi, on travaillait déjà, on venait à peine d'acheter notre maison, et notre première est arrivée quelques mois, en fait, je suis tombée enceinte de notre premier enfant, quelques mois après qu'on se soit mariés. Donc, on s'est mariés en septembre, je suis tombée enceinte au mois de janvier, dans le courant de janvier et février. Donc, ça faisait énormément de choses à gérer. Mon mari travaillait beaucoup. Dans le temps, je suis en train de naviguer mon nouveau rôle d'épouse. Qu'est-ce que ça implique? Là, maintenant, je dois gérer une grossesse et tout ce que ça implique également. Donc, le corps qui est en train de changer, les hormones qui sont en vrac. Tu traverses beaucoup. Et dans ce temps-là, mon mari, il avait deux emplois. Donc, il travaillait beaucoup et je ne le voyais pas souvent. Et même quand on était ensemble, vous savez, quand vous travaillez beaucoup, en fait, vous n'avez pas forcément envie de parler, vous n'avez pas forcément envie de. Vous n'êtes pas très causant, en fait. Et moi, je reprochais ça à mon mari, le fait que je trouvais qu'il n'était pas très, très souvent là. J'avais une vision. Un peu, j'ai envie de dire aujourd'hui, fantasmé de la grossesse, où c'est. Vous voyez les couples dans les films, on apprend qu'on va avoir un enfant, monsieur est présent, monsieur accompagne madame dans toutes les visites médicales et tout. Moi, je faisais la plupart de mes visites médicales seule, j'y allais. J'ai eu une espèce de désillusion aussi vis-à-vis du suivi médical et de l'accompagnement médical pendant la grossesse. Parce que, par exemple, moi, je pensais que quand tu es enceinte, quand tu vois un médecin, le médecin va prendre le temps, ou l'obstétricien plutôt, va prendre le temps de t'expliquer un certain nombre de choses, comment ta grossesse va se passer. En fait, moi, je voyais les rendez-vous médicaux comme des trucs très extensibles où on peut s'épancher pendant une heure, où je peux te poser les questions sur toutes mes inquiétudes, alors que ce n'était pas ça. Je passais plus de temps dans la salle d'attente à attendre mon rendez-vous que avec le médecin. Je faisais des rendez-vous de 15 minutes, on te pèse, on prend ta tension, on te demande t'as combien de mois dans ta grossesse, à combien de temps, on te dit les prochaines étapes, t'as telle échographie à faire, t'as ci, t'as ça, t'as ci, t'as ça, et puis boum, basta. Donc en fait, j'ai vécu une certaine solitude dans ma grossesse qui a fait que quand ma première a arrivé, ça n'a pas été forcément simple. En plus de ça, j'ai vécu une grossesse qui était difficile. Dans la mesure où on m'a découvert des fibromes, et c'était des fibromes en fait de la manière dont ils étaient placés. J'ai eu deux hospitalisations à cause de ces fibromes-là parce que les fibromes se nécrosaient. Et ce qui me créait des crises de douleur incroyables. J'ai été placée à un moment donné sous l'équivalent de morphine pendant ma grossesse pour pouvoir gérer la douleur. Donc c'était très difficile pour une première grossesse. Il y a beaucoup de choses aussi quand tu es primipare dont on ne te parle pas forcément. Nos mamans n'ont pas eu cette finesse-là de nous expliquer un certain nombre de choses par rapport à la grossesse. Tout ce qu'on te dit, c'est tu vas accoucher quand tu vas avoir ton enfant, tu vas être heureux et tu vas oublier toute la douleur que tu as traversée. Donc déjà, pendant ma grossesse, j'ai beaucoup morflé. Dans le cas de Rebecca, ils ont attendu longtemps un enfant et l'enfant arrive, la grossesse n'est pas simple. On lui annonce que, bon, elle porte littéralement deux nations en elle. Donc j'imagine en fait l'état psychologique dans lequel elle pouvait être. En plus de ça, ça, c'est l'expérience de la grossesse. Le couple a besoin d'être un socle solide pour que une grossesse se passe bien. Et quand souvent c'est pas le cas, parce que bah tout est nouveau, vous apprenez à vous connaître, enfin à vous connaître différemment, mais dans le mariage, vous apprenez à communiquer, à trouver votre langage, à trouver ce qui fonctionne. C'est beaucoup d'ajustements. Et quand il y a les hormones ce qui rentrent en compte. Nous, les femmes, on n'est pas forcément toujours très rationnelles. On est très plutôt portées sur les émotions, comment je me sens. Parce que, en fait, C'est toute une aventure qu'on est en train de vivre qui vient tout chambouler en fait. Donc c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Et ensuite, on arrive à l'accouchement. L'expérience de l'accouchement va aussi avoir un impact sur comment tu perçois ton enfant. Pour moi, j'avais un plan clair de comment je voulais accoucher. Je voulais un accouchement naturel, physiologique, où est-ce que j'ai mon travail, je vais pousser et puis mon enfant va sortir. Si vous allez sur ma page personnelle, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, mais si vous allez sur ma page personnelle, Sam Désir, je parle à un moment donné, j'ai fait une story time sur mon accouchement et à quel point mon accouchement a été la plus grosse désillusion que j'ai pu expérimenter en fait. Je fais un travail, déjà je suis déclenchée à 39 semaines. Presque à la fin, la grossesse est devenue très pesante, je suis fatiguée. Donc quand on me parle de déclenchement, parce que l'enfant ne recevait plus assez de nutriments, il y avait un problème au niveau du placenta. Donc déjà l'état psychologique en fait dans lequel je vais à l'hôpital, je suis pas forcément sereine, mais en même temps comme je suis fatiguée, j'ai envie que ça s'arrête. Je vais en me disant, ok, je vais pousser. Même si on a déclenché, je peux faire ce travail-là jusqu'à la fin. C'est pas simple, en fait. Et je fais un travail pendant plus de 12 heures. Mon travail stagne. À un moment donné, ça bloque. Et puis, ma dilatation s'arrête à 6 cm et je suis obligée d'aller en césarienne d'urgence parce que il y a une détresse fœtale par rapport au cœur du bébé. Bref, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas à ce moment-là. Et je ne voulais personnellement pas de césarienne. J'étais bloquée sur le fait que je ne voulais pas de césarienne. Et en fait, tout ce que tu ne veux pas, c'est ça qui finit par t'arriver. Je perds connaissance sur la table de. La table d'opération après avoir pris mon bébé. Donc en fait, tout ça pour dire que mon accouchement est très traumatique. Mon accouchement est traumatique. En plus de ça, pris mi-part. J'avais pas beaucoup d'aide à côté de moi. Mon mari savait déjà comment s'occuper d'un enfant parce qu'il s'était occupé de ses nièces et Dieu merci. Mais moi, quand je sors de l'hôpital, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Je sais pas forcément qui je suis. Je sais que avant ça, j'étais une jeune femme insouciante qui pouvait voyager, qui pouvait faire ce qu'elle voulait, qui pouvait profiter de la vie. Mon mari et moi, on allait de temps en temps en date. Quand je voyageais, je pouvais faire mes girl trips, etc. En fait, j'étais une femme très attachée à sa liberté et au fait de pouvoir partir quand je voulais et revenir quand je voulais. C'est-à-dire, on avait cette entente-là, mon mari et moi. Pour moi, voyager, par exemple, c'était vital. Pouvoir sortir, faire des petits week-ends et tout, c'était vital. Et là, je sors de l'hôpital avec un enfant sans mode d'emploi. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. C'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi quand tu deviens maman. C'est tu dois tout découvrir du jour au lendemain, tout en te reconstruisant toi-même. Et ça, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a un deuil à faire, il y a un lâcher-prise en te disant que ma vie d'avant, pendant un moment en tout cas, je ne pourrais plus avoir la vie que j'avais avant. Donc il faut lâcher prise par rapport à ça. Il faut te dire que je suis devenue aussi une nouvelle personne. Le jour où tu accouches, tu es une nouvelle femme, quelque part. Et il faut trouver en fait ce qui convient à cette femme-là. Et comment t'insérer dans cette nouvelle réalité de maman? Tout en essayant aussi de comprendre en fait comment ça marche, comment tu dois être une épouse. Ça fait beaucoup. Donc dès que je sors de l'hôpital, déjà mon corps est en vrac parce qu'une césarienne c'est une grosse chirurgie. J'ai mal partout, je souffre, je vais pas bien. J'avais des plans d'allaiter par exemple. Ma première fille. On a de la difficulté avec la mise au sein, elle n'arrive pas à prendre le sein, j'ai pas de lait. Donc en fait, je suis extrêmement frustrée quand je rentre à la maison parce que je me dis, moi je voulais nourrir mon enfant, maintenant il faut lui donner la formule infantile. Et ce n'est pas pour culpabiliser les mamans qui décident volontairement de donner du lait, de la formule à leur enfant. C'est un choix, moi je tenais à mon allaitement, donc ça a été difficile pour moi au départ. En plus de ça, comme je dis, le corps, le corps, il va pas bien mentalement. Je suis pas reposée parce que bah, mon corps a énormément travaillé. Je suis fatiguée. Les premières semaines, en fait, tu sépares comment naviguer. J'avais jamais changé de couche. Je devais apprendre à changer des couches. Je devais m'occuper d'une personne qui n'avait pas demandé à venir au monde, tout en m'assurant qu'il faut pas que je m'oublie en même temps. En fait, it's a gong show. It's too much. C'est trop en même temps. Bless his heart, parce que mon mari était très présent à ce moment-là, parce que il a pris la relève vu que j'étais césarisée et que j'avais une mobilité réduite. C'est lui qui faisait les nuits pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Mais c'est pas comme si je dormais parce que je devais me lever pour tirer le lait, pour que, en tout cas, pour stimuler ma production de lait pour pouvoir avoir du lait pour que la petite puisse manger. Donc je dormais peu. J'ai fait directement, quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait un baby blues parce que je me sentais seule. J'avais l'impression qu'il se passait 500 000 choses dans ma tête, mais que j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Donc c'était très difficile. Et en plus de ça, j'ai pas pu avoir les premiers contacts avec la petite. Et donc, en fait, je fais une espèce de petite jalousie parce que je vois que mon mari, lui, il prend beaucoup de place. J'essaie de trouver ma place dans tout ça en tant que maman. Donc, je fais un baby blues qui prend du temps et qui finit par devenir une dépression postpartum parce que je n'arrive pas à me retrouver. Et j'ai du mal, en fait, à... J'ai du mal à... J'ai du mal à créer du lien avec ma fille, tout simplement. C'est une période qui est très difficile à naviguer et en ce moment-là, je ne sens pas forcément le soutien émotionnel dont j'ai besoin vis-à-vis de mon mari. Il est un soutien physique, donc il est présent pour la petite, mais j'ai l'impression que lui et moi, il y a une déconnexion. On n'arrive pas à se parler. Je suis beaucoup à fleur de peau vu que lui aussi s'occupe de la petite la nuit et que le lendemain, il va travailler. On est tous les deux à fleur de peau. Un enfant vient mettre beaucoup de stress sur le couple dans les premiers mois, voire les premières années, parce que on a du mal à communiquer, on est fatigué, on est éreintré, on va pas bien, donc on a moins de patience et la moindre chose, les moindres trucs constituent des irritants pour le couple. Le bébé pleure. Et tu t'es pas levé pour t'en occuper, tu me saoules. Les biberons sont là, ils sont pas lavés. Pourquoi tu les as pas lavés? Tu m'agaces. En fait, on prend beaucoup de choses à cœur et on a très peu de recul. Donc, dans toute cette déconstruction-là, j'ai beaucoup de mal à créer du lien avec ma première. Alors, je sais que je l'aime, hein, mais je suis beaucoup en retrait. Et puis à un moment donné, le fait que mon mari prenne beaucoup de place, au début, ça me dérangeait, mais après, ça finit par m'arranger un peu. Je me dis, bon, bah écoute, ça va être une fille à papa, c'est pas très grave. On créera quelque chose quand elle aura un peu plus grandi et tout. Mais j'abandonne pas forcément le fait de vouloir avoir une relation avec elle. C'est juste qu'à l'instant T, je suis tellement pas bien que j'ai envie de vous dire que créer des affinités, c'est pas ma priorité, c'est pas ma première priorité, en fait. Je suis clairement en mode survie. Et fast forward, en fait, ça m'a pris 18 mois pour pleinement entrer dans mon rôle de mère. C'est-à-dire que pendant les premiers 18 mois, I faked it till I made it. C'est-à-dire, j'étais beaucoup dans des automatismes. Bon, il faut que je la nourrisse, je la nourris. Il faut que je lui donne le bain, je lui donne le bain. C'était beaucoup de il faut que, mais je ne prenais aucun plaisir au fait d'être mère. Et ça a beaucoup entaché ma relation avec elle. À partir de 18 mois, vu qu'elle est un petit peu plus autonome, elle est un petit peu plus grande, j'ai comme l'impression aussi que dans mon couple, les choses commencent à aller mieux. La période de la tempête et des crises commence à passer et c'est comme si On entre en fait un peu, lui et moi, dans une nouvelle saison, et ça coïncide un peu avec le fait que je commence à me dire qu'il faut que tu reprennes le dessus et qu'il faut que tu sois intentionnel dans le fait de créer une relation avec ma fille. C'était important, c'était un sujet de prière. Et je vous avoue que pendant toute cette période-là, avant, je culpabilisais aussi beaucoup parce que j'y arrivais pas, tout simplement. Il a fallu que je passe par un processus de guérison, que je reconnaisse que je suis passée aussi par une dépression et que c'était pas forcément ma faute. Il a fallu que je me reprenne en main pour pouvoir recommencer à avoir une vraie relation avec ma fille. Alors ma fille, je peux dire aujourd'hui en toute humilité que je l'aime, mais it was an acquired taste. C'est un amour qui est venu graduellement. C'est un amour qui s'est apprivoisé. Et ça m'a pris du temps, tout simplement, parce que j'étais pas au beau fixe. Et si j'ai envie de parler à une femme qui peut vivre ce genre de moment-là, pour différentes raisons. Est-ce que c'est peut-être parce que t'as pas autant d'aide que tu aimerais en avoir? Est-ce que le fameux village dont on parle n'est pas présent? Est-ce que c'est peut-être... Moi, j'ai eu la grâce d'avoir un mari qui s'occupe toujours beaucoup des enfants. Mais est-ce que c'est parce que tu es avec un conjoint qui ne sait pas comment prendre sa place de père? Est-ce que c'est parce que ta famille est loin? Est-ce que c'est parce que ton village, ton système de support, donc je parle par exemple de la crèche, de la garderie, des assistantes maternelles, tout ça, c'est payant. Et forcément, quand on arrive à être parent, bah, les finances sont aussi scindées d'une certaine manière. Un enfant vient avec son lot de bénédictions, mais ça vient aussi avec son lot de défis. J'ai envie de déculpabiliser quelqu'un pour dire que c'est OK. Il y a certaines femmes qui vont accoucher et qui vont se sentir mère instantanément, et il y en a d'autres à qui ça va prendre un peu, voire beaucoup plus de temps. Mais la finalité est que tu arrives à entrer dans ce rôle et que tu arrives à aimer devenir une maman. Et il y a celles aussi qui n'y arrivent jamais. Mais ça, quand on arrive à ce moment-là, il faut chercher de l'aide. Donc, ma première fille, j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à l'apprécier. J'ai appris à trouver ses qualités. Mais il fallait que je sorte. Il fallait que je fasse le deuil de mon ancienne vie. Il fallait que je règle. J'arrive à régler tous les problèmes environnants qu'il pouvait avoir dans ma vie. Il fallait que je passe aussi par un processus de guérison intérieure. Et il fallait que j'accepte que c'était devenir être maman faisait partie de ma vie, mais que ce n'était pas toute ma vie en fait. Que j'avais aussi le droit d'avoir du temps pour moi. J'avais le temps d'avoir une vie à côté parce que c'était un peu ça. C'était un peu ça qui faisait le blocage à un moment donné. C'était que pour moi, ma vie se résumait à être mère. J'avais plus de hobbies, je voyais plus beaucoup mes amis. Et celles qui sont très proches de moi sont loin. Donc, j'ai dû faire un deuil de ma liberté en tant que telle. En tout cas, la liberté telle que je la percevais. Ma liberté de jeune femme célibataire ou en tout cas de jeune femme nouvellement mariée. Il fallait que je fasse un deuil de cette conception de la liberté pour laisser la place à un nouveau chapitre. L'expérience est complètement différente quand je tombe enceinte de ma deuxième. D'ailleurs, en fait, il faut dire que quand je tombe enceinte de ma deuxième, le plan n'était pas de tomber enceinte à cette période-là. J'ai été tellement traumatisée par ma première grossesse que je n'avais qu'un désir, c'était de faire un enfant, mais dans 5 ans. Je ne me voyais pas mère tout de suite. Mais je crois que Dieu avait d'autres plans. Et je crois qu'il avait pour ambition de me guérir à travers une nouvelle expérience de grossesse, mais qui cette fois-ci a été différente. La grossesse de ma deuxième, donc la grossesse de Gianna, a été en fait une expérience thérapeutique pour moi. Parce que quand je tombe enceinte, je dis à Dieu, écoute, j'avais pas prévu de tomber enceinte. Après deux, il y a, il y a, il y a, j'ai lu la dernière fois que quand tu deviens maman, ça peut te prendre jusqu'à 5 ans pour finalement te sentir comme toi-même. C'est à partir de 2 ans postpartum que tes hormones commencent à s'équilibrer. Donc en fait, En janvier 2024, c'est la première fois que je recommence à me sentir comme étant moi-même. J'ai recommencé le sport, j'ai pris un entraîneur, je commence à me sentir un peu bien dans ma vie. J'ai recommencé aussi à avoir une libido parce que souvent t'es tellement dans le jus qu'en fait t'as zéro désir. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Je me sentais tellement pas bien dans mon corps, j'avais tellement de choses qui me prenaient la tête que c'était un peu difficile de crier. D'avoir envie de faire quoi que ce soit. Mais ça peut être le cas, ça peut être différent pour quelqu'un d'autre. Tout ça pour dire que quand je tombe enceinte, c'est comme si je me dis, ah, je viens de sortir du cycle pour devoir retourner dans ce cycle-là. Mais en même temps, je suis pas triste, je suis pas en colère, mais j'ai beaucoup de questions et j'ai beaucoup de demandes. Alors je vais prier, je vais dire en ce moment-là, écoute Seigneur, si tu as voulu que je tombe enceinte une deuxième fois, c'est que c'est ta volonté. Je l'accepte. Alors là, ça c'est un shift complètement différent de la première fois. Parce que je suis plus forcément dans le contrôle, je suis plus forcément dans le fait d'avoir un plan qui doit se suivre à la règle. Effectivement, je sais ce que je veux parce que j'ai déjà vécu des trucs que je ne voulais pas. Mais je suis en fait dans un... Il y a un certain lâcher-prise en fait qui a lieu. Je lui dis, si tu as voulu que je tombe enceinte cette fois-ci, so be it. Mais je veux que ça se passe bien. Je ne veux pas vivre un bis repetita de la première fois. Je n'ai pas envie de détester mon expérience de grossesse. Alors, entre parenthèses, moi, je fais personnellement partie des femmes qui n'aiment pas être enceinte. Je trouve ça... I think it's overrated. Mais j'arrive à apprécier, une fois quand je suis enceinte, j'arrive à apprécier les moments que viennent avec la grossesse, quand ton enfant il bouge, ce temps de connexion, ce moment privilégié finalement que tu as, que tu nourris avec ton enfant, où tu peux lui parler. C'est des parties que j'aime, mais fondamentalement la grossesse, I think it's ghetto. I don't like it. À ce moment-là, je dis à Dieu, ok, j'aimerais pouvoir rester active pendant ma grossesse. Donc, pendant la grossesse de ma deuxième, je marche énormément, je continue d'aller à la salle, je continue de m'entraîner, je continue de faire de la muscu, chose que je recommande beaucoup si vous voulez que votre corps, en fait, soit apte à être préparé pour ce que j'appelle le marathon ultime, qui est l'accouchement. C'est à moins d'avoir une contre-indication, je recommande de rester active. Et ça, pour moi, c'était primordial. J'ai pu voyager pendant que j'étais enceinte. J'ai voyagé deux fois. J'ai fait un trip où je suis partie avec des copines en Italie. J'ai escaladé, enfin, j'ai fait un trek en montagne. Plus de 1500 mètres de dénivelé. Je l'ai fait, j'étais à presque 5 mois de grossesse. À ce moment-là, en fait, je ne me suis imposé aucune limite et je savais que Dieu était avec moi. C'était une grossesse qui était incroyable. Et mon accouchement était encore plus beau. J'ai eu l'accouchement que j'aurais voulu avoir la première fois, mais parce que cette fois-ci, je m'étais préparée. Parce que cette fois-ci, j'ai aussi dit à Dieu, il y a une part d'inconnu, il y a une part de choses que je ne peux pas contrôler, mais fais-moi la grâce de vivre. De me réconcilier avec la maternité, de me réconcilier avec l'accouchement et la grossesse. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis rentrée en travail spontané. J'ai commencé mon travail un 30 octobre à 13h et j'ai accouché à 22h. Accouchement naturel. Quand les médecins voulaient me faire douter, me faire croire qu'il n'était pas possible de pouvoir accoucher par voie basse après avoir une césarienne, j'ai envie de dire à quelqu'un que c'est totalement possible. Si on se prépare, si on a une équipe médicale qui est bienveillante, c'est totalement possible de le faire. Alors, oui, forcément, quand ce deuxième bébé naît et que j'ai la grâce de pouvoir faire un pot à pot, l'allaitement passe crème. Parce que je suis entourée cette fois-ci d'une sage-femme qui me montre comment les choses se passent. J'ai pu allaiter ma fille pendant 2 heures. Quand je la vois, je vis finalement cette expérience qui est l'amour au premier regard. Ce qui n'a pas été le cas pour ma première fille. Mais Je tombe en amour avec ma fille, avec ma deuxième, parce que mon expérience était tellement positive cette fois-ci. Et il y avait beaucoup de promesses aussi qui étaient rattachées à cette grossesse, à cet accouchement. C'était la période de ma grossesse de Diana. C'était une période où, spirituellement, j'étais beaucoup dans le repos. J'ai eu certains combats, mais j'ai été aussi beaucoup dans la guérison. J'ai vécu beaucoup de délivrance pendant cette période-là. Et c'était juste une expérience qui était complètement différente. Et oui, est-ce que je me sens plus proche de ma deuxième fille? Naturellement. Parce que il n'y a pas de trauma qui est relié à cette naissance. Il n'y a pas de trauma qui est relié à cette grossesse. Donc oui, effectivement, je l'aime instantanément dès que je la vois. Je sens une connexion directe dès que je la vois. Je ne vis pas cette déconnexion que j'ai pu avoir avec avec la première. Tout ça pour dire que ma première grossesse, mais avec ma première fille, c'est un amour qui a dû être intentionnel. J'ai dû aller le chercher. J'ai dû faire des efforts. Avec la deuxième, ça s'est fait naturellement. Est-ce que ça veut dire que j'aime mes enfants? Je n'aime pas ma première fille? Non. Est-ce que ça veut dire que j'aime ma deuxième plus que la première? Non plus. C'est juste que les deux expériences, le jour et la nuit, deux expériences complètement différentes, ont eu un impact sur l'affinité ou sur la relation que j'ai avec chacune. Quand elles vont go plus aujourd'hui, elles sont en train de grandir. Ma première aujourd'hui a plus de 2 ans, la deuxième a 3 mois. Alors elles sont aussi à deux différentes étapes de leur vie. J'en ai une qui est en train d'apprendre à socialiser, apprendre à réguler ses émotions. Donc c'est beaucoup de pleurs. C'est une approche qui va être différente qu'avec un nouveau-né qui pleure, qui fait popo, qui a besoin d'être changé, qui a besoin d'être bordé. Donc tout ça pour dire que, in fine, nos expériences, là où est-ce qu'on se trouve dans la vie, les stress, les pressions, l'environnement va avoir un impact sur la proximité, sur la relation que tu tisses avec chacun des enfants. Le plus important, et je vais terminer avec en disant ceci, le plus important, c'est d'être intentionnel. Le plus important, c'est de s'assurer que vos enfants ne sentent pas de distinction, que vous êtes en train de faire des distinctions entre eux. Parce que quand un enfant sent que vous avez une préférence pour son frère ou pour sa sœur, ça crée des blessures intérieures. Je suis issue d'une famille comme ça, où j'ai longtemps eu l'impression que mon père, par exemple, avait une préférence pour certains de mes frères plutôt que moi. Parce que moi, quand je pouvais lui demander des trucs, il ne me les donnait jamais. Ça a formé quelque part en moi une certaine résilience. Mais ça, je pense que c'est un sujet que j'aimerais traiter à part, sous la perspective d'enfant vis-à-vis de mes parents. Il faut faire attention en tant que parent. Il est de notre responsabilité. Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Il est de notre responsabilité de s'assurer qu'ils grandissent dans un environnement qui est sain. Et ça demande de se déconstruire, ça demande de chercher à comprendre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je vois mon enfant? Pourquoi j'ai une affinité avec l'un plutôt qu'avec l'autre? Est-ce que c'est parce que on est plus près, on a des caractères qui sont similaires? Est-ce que je me retrouve un petit peu plus en lui? Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et devenir parent demande un travail de déconstruction incroyable. Mais quand vous faites ce travail-là, je vais pas dire que ça devient parfait. Mais au moins, on arrive, et quand on a des moments où est-ce qu'on fait, on se retrouve en posture de faire du favoritisme, on arrive à mieux équilibrer le tir. Donc voilà, c'était mon expérience sur le sujet. Mais j'ai eu aussi l'occasion de parler de ma birth story, la première et de la deuxième. J'espère que ça répond à la question. Et j'espère que j'ai pu parler aussi, ne serait-ce qu'à une personne qui a deux enfants, qui a trois enfants, qui a quatre enfants, ou quelqu'un, par exemple, qui a vécu des situations où est-ce qu'il a pu sentir que ses parents pouvaient privilégier un enfant plutôt qu'un autre. Je pense qu'il faut accorder beaucoup de grâce à nos parents et comprendre que ils ont peut-être pas le recul que nous, la vie, nous permet d'avoir aujourd'hui. Et leur accorder beaucoup d'amour et leur pardonner si on a pu se sentir lésé par leurs actions. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce premier épisode de Vocal. J'espère que cet épisode vous a fait du bien et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Le nom c'est Vocal avec un S. _ ou tiret du 8 de podcast. Et si vous voulez partager vos expériences et témoignages sur la question de cette semaine, vous pourrez le faire en DM ou en commentaire. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et je vous invite déjà à me partager les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Partage ce podcast à une personne pour qu'elle soit édifiée. À très vite!